Bienvenue à l'église baptiste de Fréjus en ce 12 juillet 2020. Je veux lire un passage tiré de la révélation de Jean et dans cette série de lettres écrites aux églises, et je veux lire la dernière, celle qui est adressée à l'ange de l'église de Laodicée. Quand il dit l'ange, ce n'est pas ces êtres célestes avec des ailes, mais c'est certainement le responsable de l'Église, le pasteur, l'ancien, en tant que représentant de l'Église. Et donc la lettre s'adresse à lui et il dit « Écris à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Penses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est en particulier ce verset qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Je souperai avec lui et lui avec moi. Dans la grande cathédrale Saint-Paul à Londres, il y a ce tableau intitulé « La lumière du monde » fait par William Holman Hunt et qui veut représenter Jésus qui est la lumière du monde et qui veut la présenter à cette âme. Et je vais lire ce que j'ai trouvé dans le Wikipédia à ce sujet. Il nous dit « C'est un tableau chargé de symboles et montrant Jésus frappant à une porte fermée. » La dernière version se trouve dans la cathédrale de Saint-Paul à Londres. La porte est un symbole de l'âme humaine fermée à son appel. La lumière du monde est, bien sûr, le Christ lui-même. Hein, vous connaissez ce verset, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. La porte n'a pas de poignée. La seule façon d'ouvrir est de l'intérieur. Une personne qui entend le message de Jésus doit l'accepter et ouvrir sa vie pour l'admettre. Les mauvaises herbes autour de la porte symbolisent le péché. Elles empêchent l'ouverture de la porte. Tout comme le péché empêche souvent les gens de suivre Christ. Cette information qui est envoyée à une église, « Je me tiens à la porte et je frappe », est triste et plein d'espoir. Triste parce que Jésus est dehors et il frappe à la porte. Plein d'espoir parce qu'il est à la porte et il frappe. Cette église de Laodicée pourrait représenter le christianisme d'aujourd'hui. C'en est un auquel nous sommes souvent associés, rendant notre témoignage difficile. Hein, vous essayez de parler à quelqu'un du Seigneur et tout cela, et puis tout de suite il vous met dans le contexte du christianisme et ce qu'il a vu sur un écran de télévision. Ce qu'il a vu pratiquer, les abus, et Et alors, vous êtes associé, et puis, bien sûr, avec ses préjugés qu'il a, eh bien, il n'est pas prêt à entendre ce que vous avez à dire. Et le christianisme d'aujourd'hui, parce qu'il est impur, eh bien, rend le témoignage difficile de celui qui veut vraiment parler du Seigneur. Alors que, ici, c'est celui qui se tient à la porte et qui frappe à la porte du christianisme d'aujourd'hui, eh bien, il est appelé l'Amen. Amen, c'est pas juste pour une manière de ponctuer une prière et puis de la terminer, hein, c'est pas le point final. L'Amen veut dire « ainsi soit-il ». Hein, c'est Jésus est celui qui décide comment les choses seront et qui arrive à les réaliser. Il nous dit aussi le témoin fidèle et le véritable, qui sont des attributs de Dieu. Et Jésus se présente avec tous ces attributs. Quand il était sur terre, il a dû un peu voiler certaines de ses attributs divines afin d'être un homme. Mais là, il est celui qui frappe à la porte, c'est celui qui a toutes ses attributs divines, qui peut les exercer. Et celle qui nous sommes présentées, c'est le fait qu'il est fidèle et le fait qu'il est véritable. Je lisais cette semaine une petite citation qui dit que dans la vie, vous rencontrerez beaucoup de masques, mais très peu de visages. Eh bien, Jésus, ce n'est pas un masque, c'est un visage qu'il présente. Il nous dit aussi de lui qu'il est le commencement de la création. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il était là au moment de la création, il était déjà là. C'est lui qui frappe à la porte. Vous savez, la chose extraordinaire dans ce passage, c'est que celui qui se tient à la porte, c'est celui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Celui qui se tient à la porte de l'Église et qui frappe, espérant qu'on ouvrira pour l'inviter à entrer, c'est celui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». On a exclu l'architecte. Le christianisme, un christianisme où Christ est absent sans que ce christianisme le sache. Vous savez, parfois on va dans les églises et on trouve des représentations de Jésus, soit en statue, soit en peinture, soit en vitraux, et on voit ces représentations. Et l'autre jour, je me posais la question, je dis, mais notre habitude à la maison, c'est de mettre les photos des bien-aimés qui sont défunts, qui ne sont plus. Hein, un père qu'on a aimé, un grand-père, un frère qui est décédé trop jeune. C'est leur photo qu'on met. Mais Jésus, il est vivant. C'est pas quelqu'un qui est mort, c'est pas un bien-aimé qui est mort. Il est vivant. Et lorsque nous rentrons dans la maison, eh bien, il faut que les gens qui rentrent sachent que c'est une personne qui vit et pas une personne dont on commémore la mort. Mais malheureusement, souvent dans le christianisme, eh bien, on évoque Jésus, mais lui, il est dehors. Une première remarque que je veux faire, c'est quand il nous dit que je me tiens à la porte et je frappe. Le verbe frapper est au présent de l'indicatif. C'est une action qui est dans le temps présent, mais qui continue. Hein, on ne sait pas quand ça a commencé, on sait que c'est vrai maintenant, et puis certainement que ça va continuer. Hein, c'est comme on dit, l'eau de la Seine coule. Ben ça coule, on ne sait pas quand ça commence à couler, mais ça coule aujourd'hui et ça continuera certainement. Et c'est le verbe, le présent de l'indicatif indique cela. Et c'est le temps qui est utilisé pour Jésus qui frappe. Il a commencé à frapper, on ne sait pas quand. Il frappe aujourd'hui et il frappe demain et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Le côté triste de la chose, c'est qu'il soit obligé de frapper. Comment, alors que c'est chez lui, l'Église, c'est son temple, et c'est lui qui frappe à la porte. Le côté encourageant, c'est qu'il soit encore devant la porte, et qu'il frappe, qu'il soit toujours possible de lui offrir, encore possible. Et c'est le mot d'espoir que je vous apporte aujourd'hui, c'est que s'il n'est pas dans votre vie, eh bien, il vous est possible de l'inviter, parce qu'il frappe. Il frappe encore aujourd'hui. Jésus frappe à la porte de cette église parce qu'elle a de sérieux problèmes dont elle n'est pas consciente. Hein, c'est extraordinaire. Elle se fait une idée de son état et lui, il a une autre idée. La première chose qu'il remarque, c'est qu'il dit « Oui, j'ai vu, je connais tes œuvres. Les œuvres, je les ai vues. Il y en a, c'est pas ce qui manque. » Mais Jésus les évalue et dit « Elles sont tièdes. » Vous savez, les habitants de Laodicée comprenaient bien ce qu'il voulait dire par la tiédeur. Les archéologues ont constaté qu'il n'y a pas de source d'eau aux environs de Laodicée. Et donc, ils ont dû construire plusieurs aqueducs pour amener de l'eau de Hierapolis à plusieurs kilomètres de là. Et l'eau qui était peut-être fraîche à l'origine, le temps qu'elle arrive à la ville, elle n'était plus fraîche, vu les températures de la région. Et ils savaient ce que c'est que de boire de cette eau qui a été réchauffée et qui ne semble pas désaltérée. Et Jésus trouvait leurs œuvres nauséeuses. Vous savez, souvent, dans nos églises, eh bien, nous avons une forme d'adoration, de louange. Et parfois, j'ai l'impression qu'on loue le Seigneur de manière à nous plaire, plutôt que de faire quelque chose qui lui plaît. Elles ne se demandent pas si ce qu'elles font plaît à Dieu. Elles trouvent combien de personnes, ils vont dans une église et disent « Ah ben celle-là, elle me plaît. » Ils ne se posent pas la question si est-ce qu'elle est fidèle à la parole de Dieu, est-ce qu'elle enseigne la parole, est-ce qu'elle met en valeur Jésus-Christ. Non, l'ambiance me plaît. C'est agréable d'être là. Et ce n'est pas une bonne base sur laquelle, combien de fois même les gens, les différentes éditions de la Bible, il y a plusieurs éditions. Et la manière de choisir leur Bible de lecture, c'est celle-là, je l'aime bien. Mais la première question, c'est est-ce qu'elle est fidèle au texte? Est-ce qu'elle traduit bien le texte? Vous voyez que, supposons que vous soyez quelqu'un qui aime la musique et que vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, un ami, et voulez l'emmener à un concert de Beethoven, par exemple. Mais votre ami est sourd-muet. Mais parce que ça vous plaît, vous l'emmenez. Mais souvent, c'est ce qu'on fait avec Christ. On l'invite à assister à quelque chose qui ne lui plaît pas, qui ne trouve pas agréable. On se contente d'une liturgie remplie de symboles, mais qui n'ont pas de sens pour celui qui est là. Il dit « Je connais tes œuvres, mais mon impression, c'est qu'elles sont nauséeuses, elles sont désagréables. » Ensuite, il parle aussi de leur évaluation, de leur appréciation de leur vie et de leur vie d'église. Et il dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Bon, déjà, en entendant cela, on se dit, il y a un problème. Hein, parce que s'attribue l'œuvre plutôt que de l'attribuer à Dieu. Hein. Et en plus, il ajoute, je n'ai besoin de rien. Alors que Jésus-Christ a dit dans Jean 15, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, déjà, rien qu'à les entendre, on se rend compte qu'il y a un petit problème. Mais regardez ce que Jésus dit. Il dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Écoutez, pour un être humain, il n'y a pas pire que cela. Hein. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais pourtant, ils se croient riches, sont contents en eux, ils se sont enrichis et ils n'ont besoin de rien. Il y a une anecdote survenue au XIIIe siècle peut illustrer cette pensée. Thomas d'Aquin rendit visite au pape Innocent II. Il le surprit en train de compter une forte somme d'argent. Sans se laisser distraire, le souverain pontife fit ce commentaire. « Tu vois, Thomas, l'Église ne peut plus dire aujourd'hui « je n'ai ni argent ni or ».»« Oui, très sympa, » répondit Thomas, « mais peut-être ne peut-elle plus dire « lève-toi et marche ».» Oui. Et on est content de nous, on a la richesse, tout fonctionne bien, l'Église est en mouvement, hein, c'est comme ces machines à mouvement perpétuel, une fois que ça se met en marche, ça ne s'arrête plus, c'est très bien, et on ne se rend même pas compte que Jésus n'est pas là, alors qu'il est l'origine de la chose. Oui, vous constatez qu'il y a un énorme décalage entre les deux manières de voir, entre leur appréciation et les violations du Seigneur. Cette Église vit dans l'illusion. Peut-on prétendre être dans l'Église de Jésus-Christ et continuer avec une telle divergence d'appréciation de l'état des choses? Alors que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12 que nous devons avoir vécu un renouvellement de l'intelligence, où finalement nous voyons les choses autrement. Hein, nous avons réévalué toute notre manière de comprendre et nous voyons les choses comme il les voit. Cette Église voit de leur perspective et ne peuvent pas voir de la perspective de Christ. Et donc un grand décalage. Et Jésus leur propose de s'acheter de l'or purifié par le feu, de l'or purifié par son feu. C'est dans 1 Corinthiens 3, il nous parle des œuvres qui sont seraient évaluées comme de l'or, de l'argent et des pierres précieuses qui peuvent traverser le feu purificateur du Seigneur. Et puis il y a d'autres œuvres qui sont le foin, la paille, le bois, qui eux sont consumés par le feu purificateur. Et finalement, il leur dit, écoutez, vous feriez mieux de vous concentrer sur ceux qui pourraient passer par le feu purificateur du Seigneur. Parce que lui, il ne tient compte que ceux qui traversent le feu, il voit ce qu'il y a après. Il leur dit, achetez de l'or purifié par le feu. Ensuite, il les invite à se vêtir d'un vêtement blanc. Ils ont compris cette image, c'est pas le blanc qui met en valeur, mais c'est que l'Odyssée était très connue pour leur laine. Ils avaient laine, mais c'était des moutons noirs, donc la laine était noire. Mais elle était d'une qualité qui avait une réputation dans tout l'Empire. Mais il leur dit, non, c'est ce que vous, ce qui vous plaît là, ce qui vous, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux un vêtement blanc. C'est-à-dire, et dans l'Écriture, nous comprenons bien qu'il s'agit de la justice de Christ. Un vêtement pur de la justice de Christ. Et il leur dit aussi de s'acheter un collyre pour leur rendre la vue. Mais là aussi, c'était une image qu'eux comprenaient parce que l'Odyssée était connue pour un certain collyre et on venait de partout dans le monde. De l'époque, on venait de partout chercher ce collyre qui soulageait les problèmes de vue. Et ils savent ce que c'est que d'avoir une mauvaise vue. Vous savez, c'est c'est comme des enfants qui grandissent et qui ne se rendent pas compte que leur vue n'est pas bonne. Et en général, ils s'y habituent, ils croient que c'est normal et que tout le monde voit de manière déformée ou imparfaite ou floue comme eux. Et ce n'est que les autres qui constatent, ou les parents, ou l'institutrice qui constate qu'il y a un problème de vue. Lui, il ne se rend pas compte. Et vous savez, nous non plus, hein, on peut s'habituer avec la chose, on s'habitue, on continue avec nos pensées, nos idées, et puis on ne peut pas voir autrement. Et on a besoin de quelqu'un de l'extérieur pour nous dire, mais on peut voir autrement, hein, ce que tu vois, ce n'est pas du tout ça. Tes yeux déforment les choses, au point que tu ne peux pas lire, tu ne peux pas distinguer, tu ne peux pas reconnaître. Et cette vue déformée, spirituelle, nous rend vulnérables à toutes les erreurs doctrinales qui circulent. Hein, celui qui ne voit pas la parole de Dieu telle qu'elle est réellement, eh bien, il s'expose à toutes sortes d'enseignements, et comme c'est le cas aujourd'hui. On ne manque pas d'enseignements de doctrinales et de choses spirituelles, plus ou moins spirituelles. Mais on a besoin que le Seigneur touche nos yeux et nous rende la vue. Et c'est ce qu'il dit à cette église. Hein, il dit, voilà, vous avez un problème. Votre appréciation de votre état, de ce que vous faites, eh bien, tout est faux. Et c'est pour ça que vous êtes satisfait à être dans votre église et vous ne vous rendez même pas compte que Jésus est absent. Parfois, je me demande combien de temps certaines églises peuvent aller avant de se rendre compte que le Saint-Esprit n'a rien fait encore. Il n'est pas en train d'agir. Le Seigneur, avec tout ce qu'il reproche à cette Église, eh bien, il ne perd pas espoir pour elle. Il dit, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Ce que nous devons souligner, c'est j'aime. Et le mot aime, là, c'est le mot philéo, hein, c'est l'amour fraternel. Il dit, je vous aime comme des frères. Et si je vous reprends, si vous châtie, c'est parce que je vous aime. L'objectif n'est pas de détruire ou de causer de la souffrance, mais pour amener à la repentance, pour encourager à revenir aux bonnes valeurs, celles du Seigneur. Voilà pourquoi il se tient à la porte. C'est pour cela qu'il frappe, et il frappe, et il frappe encore. C'est parce qu'il aime. Cet amour qu'il a démontré sur la croix, eh bien, il l'a toujours. Et il veut notre bien. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans une forme de chrétienté qu'il est satisfait. Non, il veut nous faire connaître le vrai amour. Et l'amour, cherche à plaire celui que nous aimons. Premièrement, je vois Jésus qui est à la porte d'une église. Mais remarquez qu'il dit, « Et si quelqu'un, si une seule personne, entend ma voix et ouvre la porte. » C'est une église. Je ne sais pas combien de personnes, mais l'église, c'est un rassemblement de personnes. Et dit, mais si quelqu'un, s'il y en a un qui entend ma voix, eh bien, et qui ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Il ne dit pas que si quelqu'un entend toquer à la porte, mais il dit si quelqu'un entend sa voix. Il est indispensable d'entendre la voix, la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Dieu, Romains 10, 17. Il faut entendre le message. Certains se contentent de voir les signes des temps. D'autres, sont attirés vers des miracles. Ils ont vu des miracles avec leurs yeux. Ou bien ils ont eu des songes dans leur sommeil. Mais tout ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant d'entendre toquer à la porte. Mais il faut entendre la parole de Dieu. Tu entends le message, la foi et la confiance qu'on place dans la parole de Dieu. Deuxièmement, nous notons que celui qui entend la voix est celui qui ouvre la porte et qui laisse entrer le Seigneur. Jésus ne force pas la porte. Celui qui entend la voix peut ouvrir la porte. Il doit prendre cette initiative. Hein? Et vous vous souvenez, c'est la peinture dont on a fait référence, à laquelle on a fait référence, il n'y avait pas de poignée à l'extérieur de la porte. Le Seigneur frappe, mais c'est la personne qui ouvre de l'intérieur. Ne nous contentons pas de savoir que le Seigneur frappe, même si cela est rassurant, mais ouvrons la porte. Il frappe aujourd'hui, il frappe encore, il frappera peut-être demain, peut-être après-demain, mais il y a un moment où il ne frappera plus. Mais aujourd'hui, il frappe, c'est maintenant qu'il faut répondre, c'est maintenant qu'il est là. Et le Seigneur qui se tient à la porte promet que si une personne ouvre la porte de sa vie, il entrera et il a cette image de prendre un repas. C'est un peu, vous rappelez les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ont marché tout le long jusqu'au village, ils n'ont rien vu. Mais c'est quand ils se sont assis à table avec lui que là, ils l'ont reconnu. Le Seigneur, ce n'est pas une question de « je marche avec lui », c'est une question de ce qu'il désire. Hein, c'est là où il s'est révélé à ses deux disciples, c'est quand ils ont pris le repas ensemble. Il veut cet échange, il veut cette communion ensemble. Il dit « moi avec vous et vous avec moi ». Ça va dans les deux sens. Hein, vous savez, il y a des gens qui prient, ils prient vite et puis « amen » et puis ils disparaissent. Donc, il n'y a que eux qui ont parlé, Jésus n'a jamais répondu. Vous savez, on a une expression qu'on emploie, on dit à quelqu'un, on dit, écoute, viens prendre un café à la maison. Vous savez ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire le café, ce n'est pas parce que la personne n'a pas de café qu'elle vient prendre de café chez vous. En fait, c'est une manière de dire, viens, on va discuter ensemble, on va échanger. Tu vas parler, je vais parler. On va avoir un échange, un bon moment ensemble. Eh bien, écoutez, c'est ce que le Seigneur propose. Il dit, écoute, invite-moi à prendre un café avec toi. Et en fait, nous avons chacun besoin de prendre un café avec le Seigneur tous les matins. Prendre un temps où il peut nous parler, on lui donne la possibilité de nous parler, et aussi, nous avons la possibilité de lui parler, et il nous donne la possibilité de lui parler. Hein, donc, Et nous voulons entendre sa voix. Ne vous contentez pas de seulement de livres de méditation et de lisez la Bible aussi. Hein, les livres de méditation, tout ça, les commentaires, c'est très bien, mais ça ne remplace pas le texte biblique. Hein, c'est avec lui qu'on veut discuter, pas un enregistrement de sa voix, pas une explication de ce qu'il raconte. Nous voulons l'entendre lui-même. Et dans ce passage, comme il est question de la porte de l'Église, le principe qui découle est que cette parole, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Eh bien, ce principe est vrai pour celui qui vient au Seigneur pour la première fois. C'est vrai aussi pour celui qui revient au Seigneur. C'est vrai pour les christianisés, mais qui n'ont jamais connu le Seigneur. Et c'est aussi vrai pour une église qui revient, qui redevient consciente de son égarement. Elle se rend compte qu'il y a une dérive sans qu'elle se rende compte. Elle a commencé à plaire à sa clientèle, son audience, plutôt que de plaire au Seigneur. Et comme il y avait du résultat, comme il y avait du monde qui répondait, donc ça a continué dans ce sens-là, et il y a une dérive, et il y a un moment où on se rend compte dans les églises où on est en train d'accorder plus de temps à ces préliminaires et ces chants et ces performances, et on est en train de diminuer le temps de la prédication de la parole. Finalement, le Seigneur est doucement, il est poussé vers la porte. Et nous, on s'entretient très bien sans lui. Et Jésus dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pas seulement une église, aux églises locales, là où elles sont, quelle que soit leur forme, leur dénomination, leur nom, tout ça. Il dit, je m'adresse à toutes ces églises-là. Et qu'elles entendent. Mon désir, c'est qu'elles entendent ce que l'Esprit est en train de dire à cette Église par cette lettre. Et la promesse est pour celui qui aura du zèle et qui se repentira, dans le verset 19, et qu'il s'assiera avec lui sur son trône. Hein, je vous relis ce verset 19. Verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Hein, » Jésus, après avoir tout accompli sur la croix, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite du Père et dit « Maintenant, je veux la même chose pour vous. Je voudrais vous prendre, je frappe à la porte, je voudrais que vous puissiez... C'est pas moi qui viens chez vous, c'est vous qui venez pour vous asseoir avec moi. » Ma question ce matin, c'est, êtes-vous en communion avec le Seigneur? Est-ce qu'il soupe avec vous et vous avec lui? Ou est-il à la porte de votre cœur et il frappe encore? Êtes-vous satisfait de votre état spirituel alors que lui... Et que pour lui, ça ne va pas du tout. Lui dit de vous, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Jésus ne veut pas devoir te vomir alors que tu es dans le christianisme. Et si tu ne l'es pas, eh bien il t'invite, il est à la porte et il te frappe, il t'invite et il veut rentrer dans ta vie et t'apporter sa personne. Et tout ce que sa personne entraîne, et tous ses attributs, et ce temps de communion avec lui. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, eh bien, il s'adresse aux Colossiens, mais aussi il fait référence à l'église de Laodicée, qu'il n'a peut-être pas visitée. Et voilà ce qu'il dit pour ces deux églises, Colosse et Laodicée. Il dit, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Christ, savoir le mystère de Dieu, savoir Christ. » Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Si Christ est dehors, on n'a pas accès à ces trésors de la sagesse et de la connaissance. On ne connaît pas le mystère, on ne peut pas connaître le mystère de Dieu qui est Christ. Donc, laissons-le entrer. Est-il possible que vous n'entendiez pas? Ou faites-vous la sourde oreille? Jésus frappe encore aujourd'hui. Je termine avec ce verset de l'Épître aux Hébreux qui dit « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Voilà, si vous entendez sa voix, oui, il toque à la porte de votre cœur. Il voudrait entrer. Il vous dit, et il frappe encore aujourd'hui. Mais si vous entendez sa voix, si vous ouvrez la porte, il entrera chez vous pour souper avec vous et vous avec lui. Cette communion. Et puis là, il ne dit pas que c'est pour un temps. Et nous comprenons que c'est pour l'éternité qu'il veut cela. Donc je vous encourage, quel que soit votre état, quelle que soit votre situation, quel que ait été votre passé, quelles que soient vos origines, peu importe de quelle église vous êtes issu, peu importe de quelle religion vous êtes issu, peut-être peu importe de quelle langue vous parlez, le message est le même. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier, Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants parce que tu es un Dieu qui est persévérant. Et il y a très peu parmi nous qui avons répondu la première fois que tu nous as parlé. Et tu as dû frapper et frapper encore pour que enfin nous entendions ta voix. Et Père, tu connais chacun qui écoute ce message et que, Seigneur, tu lui parles à son cœur selon son besoin. Et qu'il soit dans un christianisme ou qu'il soit en dehors du christianisme, ce qui importe, c'est pas d'être dans une église, ce qui importe, c'est d'avoir Jésus avec nous et d'être avec lui et d'être en communion avec lui. Lui qui a tous les attributs de Dieu et lui qui est la parole de Dieu. Père, je te prie pour chacun qui entend et que tu répondes à son appel et que tu l'encourages à ouvrir cette porte et te laisser entrer. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.